Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive, ou FOP, plus connue sous le nom de maladie de l'homme de pierre. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur David Geneviève. Professeur Geneviève, bonjour.
Bonjour.
Professeur Geneviève, vous êtes médecin, généticien, clinicien, professeur des universités à la faculté de médecine de Montpellier et praticien hospitalier au sein du service de génétique médicale, maladies rares et médecine personnalisée au CHU de Montpellier. Vous êtes également coordinateur du centre de référence des anomalies du développement et syndromes malformatifs pour la région sud-est Occitanie. Alors, professeur Geneviève, ma première question est très simple et très directe. Qu'appelle-t-on fibrodysplasie ossifiante progressive ?
Alors, la FOP est une maladie rare puisqu'elle atteint une personne sur 1,36 million d'habitants en France. Donc, c'est une maladie qui va progressivement entraîner un remplacement du muscle par du tissu squelettique qui va donc par la suite entraîner une perte de la mobilité et une rigidité.
Et quelle est la typologie des patients atteints et les principaux signes évocateurs de cette maladie au départ ?
Alors, cette maladie, la typologie, c'est que c'est une maladie rare, comme on l'a dit. Et en fait, les premiers symptômes cliniques vont apparaître dès la naissance. Et pour autant, on va avoir beaucoup de mal à identifier ces personnes. Et les premiers symptômes sont une anomalie du gros orteil qui va être déviée vers l'intérieur. On parle d'hallux valgus congénital. Puis par la suite, des poussées qui vont entraîner, au cours de ces poussées, une inflammation dans le muscle et un remplacement du tissu musculaire par du tissu squelettique, c'est-à-dire de l'os, et par la suite, une rigidification de la personne qui, assez inéluctablement, aura une perte de ses fonctions motrices et par la suite, parfois, une perte des fonctions respiratoires, et donc un décès.
Et face à ces symptômes qui pourraient faire penser à une fibrodysplasie ossifiante progressive, quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, face à l'hallux valgus, c'est-à-dire cette malformation du gros orteil, on pourrait évoquer d'autres pathologies génétiques qui peut être par exemple le syndrome de Rubinstein-Tibi, qui est une pathologie génétique présente également dès la naissance, mais qui, elle, va être associée à un retard de croissance pré- et postnatal et une déficience intellectuelle. On pourrait aussi évoquer, avec ces calcifications ectopiques à un endroit qu'il ne faudrait pas, d'autres pathologies comme le syndrome d'Albright ou la pseudo-hypoparathyroïdie, qui est une pathologie génétique associée à une activation d'un gène qui s'appelle GNAS et des calcifications ectopiques.
Alors, comme pour de nombreuses maladies rares, les patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive subissent souvent une errance diagnostique qui peut parfois être assez longue d'ailleurs. Quelles sont les conséquences de cette errance, en particulier pour ces patients qui souffrent de FOP ?
En effet, les personnes qui ont une FOP vont avoir une errance diagnostique très importante, alors que le signe très spécifique de cette maladie, qui est le gros orteil qui rentre vers l'intérieur, l'hallux valgus, ce diagnostic face à ce signe sera porté uniquement chez 2,7% des enfants. Il faudra attendre l'âge de 7 ans pour pouvoir ensuite évoquer le diagnostic, à une étape où il va y avoir beaucoup de calcifications déjà. Et pour 6,9% des personnes avec FOP, il faudra attendre 18 ans. Donc ça veut dire qu'on a un décalage entre les premiers symptômes et les diagnostics et les risques de faire un diagnostic extrêmement tardif sont de ne pas prendre en compte les poussées de cette maladie et donc de ne pas les traiter, c'est une vraie perte de chance, de faire une chirurgie qui serait indue chez ces personnes puisqu'on sait que la chirurgie va créer en fait les poussées, ou faire une vaccination intramusculaire qui là aussi, sur le trajet de la vaccination, va faire une poussée, ou éventuellement l'agent qu'on va injecter va aussi faire une poussée. Enfin, un des derniers risques, c'est que si ces adultes ont eux-mêmes des enfants, on risque de faire un faux conseil génétique, se tromper et mal les renseigner sur le risque de transmission de la maladie à leurs enfants.
C'est très clair. Dernière question, professeur Geneviève, puisqu'on arrive déjà à l'issue de notre entretien. En cas de forte suspicion de fibrodysplasie ossifiante progressive, comment affirmer le diagnostic?
Alors, la meilleure façon d'affirmer un diagnostic dans une maladie rare, c'est de proposer un examen génétique. Je rappelle que 80% des maladies rares sont d'origine génétique et la FOP fait partie de ces maladies rares avec un substratum moléculaire. On va donc proposer une prise de sang avec une étude du gène ACVR1 qui est localisé sur le chromosome 2. Ce gène-là, habituellement, son travail, c'est d'aller activer en fait la création d'ossification. Lorsque les personnes ont une mutation dans ce gène, on parle maintenant de variant pathogène, certaines mutations vont entraîner une hyperactivation de ce récepteur et donc créer de l'os dans le muscle. Donc, en résumé, il est indispensable de proposer une étude en génétique moléculaire qui va confirmer l'hypothèse diagnostique clinique. Pour conclure, je souhaiterais rajouter le fait qu'il existe une association de patients pour la fibrodysplasie ossifiante progressive, FOP France. Il existe également un regroupement européen qui est IFOPA. Je pense qu'il est absolument indispensable que les personnes qui ont une FOP et ou leurs aidants parents doivent être informées de l'existence de cette association. Seul ce travail en commun entre les partenaires de santé et les associations de patients vont permettre à la personne malade d'avoir un décloisonnement, de sortir de l'isolement. Donc je pense que ce premier point est absolument indispensable. Le deuxième point extrêmement important, c'est les centres experts maladies rares. Il ne faut pas hésiter à adresser aux centres experts maladies rares les personnes qui sont suspectes de ces maladies pour un diagnostic et ensuite de l'aide à l'accompagnement de la prise en charge. Ces centres ne sont pas faits pour suivre au long cours les personnes, mais aider le médecin de famille à mieux gérer cette maladie.
Eh bien, merci mille fois, professeur Geneviève, de nous avoir éclairé sur la fibrodysplasie ossifiante progressive. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la fibrodysplasie ossifiante progressive. À très vite.